Blablamix.
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 Yeah, my neighbor, your neighbor. Can you really trust? Who can we really trust? During times like this.
C'est Blablamix.
C'est Blablamix.
Un quart de personnes coptes réduites en poussière dans le désert, sous les balles de Daesh, Égypte. Des jeunes n'iront plus jamais au concert rayé de la carte de Manchester, Angleterre. Mourir dans la Méditerranée par mesure de sécurité. Le G7 en Sicile empêche les bateaux SOS Méditerranée Anco d'accoster. Trajet plus long, tenez bon les gars, certains boivent du champagne et d'autres boivent la tasse définitivement. Mais, Blablamix pour s'aérer, sublimer, s'envoler, oublier, lutter contre l'anxiété grâce à la culture. Brésil, Bangladesh et partout dans le monde des images et des trajectoires. Surtout dans vos oreilles.
Oui, oh, oh.
Blabla words.
Peace and love.
Pace. Pace vadashuri.
Kimia pebondeko.
Paz e amor. Paz e amor.
Comment on dit en français déjà?
La paix et l'amour.
Il faut lever les micros, Florian, finalement. Tous les micros, là, tout ce que tu vois, tu pousses. Allez hop, c'est parti. Car le quart d'heure de Peace and Love, c'est maintenant. C'est Blablamix. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Vous êtes à la pêche, vous nous écoutez. Un petit bateau va filer sur l'eau. Blabla Minute, c'est tout de suite. Florian, are you okay?
Blabla minute.
Blabla minute.
Blabla
minute.
Juliana.
Bonjour.
Bonjour. Juliana, vous êtes, tu es, ils sont déjà venus avec la Casita. Hier soir, tu étais comment? C'est ça? Mais on t'entend pas en fait, donc tu vas changer de micro. Le temps de changer de chaise. Hier soir, tu étais à la boîte à gants rue Pierre Blanc.
Vendredi, oui.
Vendredi. Et nuit sonore flamenco à la boîte à gants. Voilà. Comment ça s'est passé?
Ouais, c'est bien passé. C'est bien passé. On a fait le concert de flamenco et rumba. Et donc, l'idée, c'est de montrer ces deux univers autour du flamenco.
Tu viens du Brésil, ça on le sait, car tu nous avais raconté que le flamenco, eh bien, c'est une histoire d'amour brésilienne. Et là, en fait, tu as fait des ateliers au mois de mai avec des personnes, demandeurs d'asile et réfugiés. Et là, vous allez faire un spectacle.
Wow. Oui, donc avec l'association, nous avons proposé des ateliers. C'est Lisa Meyer qui anime les ateliers. Et les personnes de l'atelier, ils sont invités, ils vont participer avec nous dans notre spectacle qui parle du voyage. Donc l'idée, c'est avec le spectacle, transmettre aussi un message, présenter la musique brésilienne et le flamenco, cette façon de réunir les deux et amener un message aussi.
Et ce message?
C'est un message de paix et d'espoir. Donc le Peace and Love, il va tout à fait bien avec...
Mais quelle drôle d'idée, Juliana, mais où est la paix dans le monde? C'est de la science-fiction?
Un peu, ouais, un peu. On essaie de le construire. C'est vrai qu'il y en a très peu. Il y en a, si on va, quand on regarde autour de nous, la réalité, elle n'est pas si simple. Il y a beaucoup de choses dures. Mais on part du principe aussi que la réalité, elle est celle qu'on construit. Et donc, autant il y a beaucoup de personnes qui malheureusement peuvent construire du malheur, et on essaye de construire le bonheur avec les gens comme vous qui sont aussi dans cette même démarche.
Et avec Sam qui est là. Sam, donc tu vas faire partie du spectacle. Est-ce que tu es déjà monté sur une scène? Est-ce que tu as déjà dansé dans ta vie?
Le flamenco, non, mais l'autre chose, oui.
Je n'ai pas dansé le flamenco avant. C'était la première fois. Mais je suis heureux pour faire ça.
Mmh. Mais pourquoi tu as décidé d'aller dans ces ateliers? Est-ce que c'est parce que Juliana est belle?
Ah oui, elle est très belle.
Merci.
C'était quelque chose pour sensation morose que nous fait oublier en France passée, la guerre. La pression qu'on peut recommencer le vivre.
Mmh. Parce que finalement, Sam et puis les autres invités et tous ceux qui sont passés chez nous, on leur propose plein de choses en fait. On leur propose de la culture, on leur propose d'aller se baigner, on leur propose des repas. Mais en fait, vous, Sam, vous, Rita, vous, Dan, ce que vous voulez, c'est des papiers, c'est tout. Alors, finalement, ça sert à quoi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Juliana?
Oui.
On leur propose tous ceux dont ils n'ont pas besoin.
Voilà. Alors, il y a une musique au Brésil, je crois que c'est des Titans, qui dit comme ça... Nous voulons pas seulement à manger, nous voulons à manger, mais aussi bien de loisirs et de l'art. Ça veut dire que on a besoin, eux comme nous, nous avons besoin des choses matérielles, concrètes, de résoudre nos problèmes concrets dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. Mais pour nous alimenter, nous avons aussi besoin d'autres choses comme l'art, comme la culture, comme aller à la pêche avec les amis, passer juste 5 minutes à dire quelque chose. Donc c'est quelque chose qui nous alimente autrement en fait. Mmh. Après, c'est comme Sam vient de dire, c'est danser le flamenco pour lui, c'était, tu me dis hein, si j'ai bien compris ce que tu as dit. C'est aussi recommencer à vivre.
Oui.
Parce que
oui,
du coup, tu es dans un lieu où tu as beaucoup de plaisir.
Oublier la situation, le papier.
La guerre.
La guerre, tout, oui.
Mais n'oublie pas le micro. Et c'est vrai, tu oublies la guerre quand tu danses le flamenco.
Un petit peu, oui, un petit peu.
Et raconte-nous alors, maintenant c'est ton tour, parle-nous de tes professeurs, comment elles sont, est-ce qu'elles sont autoritaires,
méchantes,
est-ce qu'elles sont méchantes?
Ah non. Ma coach Lisa est merveilleuse, patiente et professionnelle à la fois. Elle nous simplifie le mouvement, étape par étape. Et le flamenco devient facile pour nous maintenant.
Oh. Ben, je vous propose de se plonger tout de suite dans l'univers sonore.
C'était vraiment un dur voyage. Depuis combien de temps nous marchions? Des jours, des mois peut-être. Vous ne savez pas où aller. Trois longues de la voie ferrée.
Contando a história. ti. Tantos anos contando meu tempo, minha gente de fé me sorri. Tantos anos de voz nas estradas, tantos sonhos que eu já vivi. Tantos anos contando meu tempo, minha gente de fé me sorri. Tantos anos de voz nas estradas, tantos sonhos que eu já vivi.
Les...
Par contre, tu veux bien voir avant de boire.
Eh oui, 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 buvez, buvez, Juliana. Les auditeurs, eh bien, vous l'imaginez, hein, nous a fait une démonstration de flamenco dans le studio. C'est magnifique, magnifique. Est-ce que Sam, tu auras ce, tu seras magnifique également?
Oui.
Oui. Est-ce que ça va être un spectacle dirigé par une professionnelle avec des amateurs, ou est-ce que ça va être un spectacle pour des spectateurs professionnels?
Alors, le spectacle, c'est avec la compagnie. Donc, c'est le spectacle de la compagnie. Donc, avec des professionnels. Qu'avec des professionnels. Et il y a deux moments du spectacle où les amateurs de l'atelier ils vont participer. Donc, je ne sais pas si je vous dévoile déjà.
Non.
Non, faut pas.
Non, non, un peu de suspense. Ah, mais en tout cas, il y aura de la qualité.
Oui, bien sûr. Alors, je vous raconte l'histoire.
Ok.
D'accord. L'histoire, c'est l'histoire qui est basée sur une histoire vraie du Brésil. Des gens qui ont dû quitter leur village parce que le gouvernement militaire à l'époque, il a décidé de finir avec une voie de chemin de fer. Et du coup, les gens, ils n'avaient plus de moyens de subsistance, ils ont dû partir. Donc, on raconte leur départ, on imagine leur voyage, leurs difficultés. Et à ce moment, ils partent, ils cherchent d'autres villages où vivre. Et à un moment, ils se font rejeter des villages. Et plus tard, ils se font intégrer et ça raconte leur histoire. Et donc, les personnes de l'atelier, ils seront donc, dans deux moments de cette histoire.
Ce sont les villageois.
Il y a un moment où ils seront des villageois, il y a d'autres moments où ils seront des voyageurs, où ils vont marcher. On parle de la marche, de la marche, de la marche, de la marche. Et on voit dans des récits des personnes qu'on connaît où cette marche, elle est très présente dans l'histoire.
Dans leur histoire, voilà. Ouais.
Donc ponctuellement, ils vont participer. Sinon, le reste du spectacle, c'est un spectacle professionnel.
D'accord. Et que voulais-je dire, Sam, tu as beaucoup marché?
Oui, beaucoup.
Tu as beaucoup marché dans ta vie?
Oui. Oui, beaucoup marché.
Tu te souviens à quel âge tu as appris à marcher?
Non.
Juliana?
Désolé.
Ah, moi non plus. Peut-être que j'ai dansé avant de marcher.
Mais peut-être tôt. Peut-être tôt, oui.
Tôt. La musique, elle est importante dans le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'emblématique musicienne?
Alors, notre musique, c'est basée sur Milton Nascimento, qui est un grand...
Donc, chez nous,
Milton
Nascimento.
Qui est un grand, grand monsieur de la musique brésilienne. Et donc, tout c'est autour de son œuvre. Le spectacle entier, les messages qu'on transmet aussi sont autour de son œuvre, lui. Et donc nous prenons, il y a deux lignes musicales. Une ligne musicale, ce sont ses musiques à lui, avec des arrangements de la compagnie. Nous avons donné des touches nôtres, du flamenco et des arrangements que nous avons faits. Et une autre ligne, c'est du flamenco traditionnel. Nous avons composé des chansons de flamenco traditionnel, seulement les textes, et ils sont basés sur des textes des chansons de Milton. Donc ça veut dire que les messages qu'on transmet par le biais des compositions du flamenco traditionnel, ils sont le texte de Milton. Donc c'est Brésil, on utilise le mot Brésil flamenco et vous verrez dès la musique brésilienne et du flamenco et des points, il y aura des points de rencontre entre ces deux univers.
Et Juliana, le Brésil vous rattrape, nous aurons sans doute beaucoup de Brésiliens qui feront des demandes d'asile.
Peut-être.
On ne parle peut-être, pas politique
mais
aujourd'hui.
Mais en tout cas, nous avons beaucoup de Brésiliens en France.
Et oui,
à Lyon,
absolument.
Nous avons énormément. Oui.
Et heureusement d'ailleurs, car Lyon est plus présentable avec toutes ces personnes qui viennent du monde entier.
Ah, c'est magnifique.
Juliana, si on pouvait vous aider, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Oui, merci d'en parler. Alors, nous avons, donc, comme on l'a déjà parlé, nous avons des ateliers que nous offrons gratuitement aux gens. Nous avons les spectacles, nous avons les rencontres les rencontres thématiques à la suite du spectacle que nous avons avoir le plaisir de vous avoir en tant qu'animatrice. Merci.
Ah oui, c'est vrai. Oui, après il y aura des conversations, des débats.
Sur la question, d'échange des points de vue.
Au Palais de la Mutualité, au Croiseur et au Parc de Gerland.
Voilà, le 9 juin, le 11 juin. Et le 19 août. Et donc, pour boucler le budget, alors en sachant que nous avons déjà certaines aides du ministère de la Culture, de l'Espédidam, les mairies du 3e, du 7e, elles sont aussi avec nous.
Et messieurs... Attention, vous êtes sur une radio anarchiste.
Ah, je peux pas
ne prononcez pas trop de noms de politiques, on va se faire jeter.
D'accord, bah, j'arrête alors.
Non, on est ravis que vous prononcez. Mais justement, vous faites un appel. Il y a un
par contre, malgré ces diverses aides, donc j'ai dit plus personne, mais vous pouvez aller voir dans notre site internet. Et malgré cette aide, nous n'avons pas suffisamment de budget pour boucler. Donc nous avons lancé une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, sur la plateforme KissKissBankBank. Si vous mettez la casita, qui est le nom de l'association, vous allez trouver.
L-A, plus loin, C-A-S-I-T-A, tout simple.
Voilà, et sur le Facebook de la casita aussi, vous trouverez les infos. Donc, pour toute personne, toute aide, même 1 euro, si vous le donnez, c'est bienvenu. Et voilà, pour aider à financer. Et le spectacle, nous offrons donc 300 places, la moitié des places dans les salles de spectacle, environ 300 places à des associations. Comme Singa, Centre Social. Je peux dire par contre, c'est l'association, on a le droit.
Je ne sais pas, je vais appeler les anarchistes. Allô, les anarchistes, est-ce qu'on a le droit donc?
Donc, Singa, Notre-Dame des Sans-Abris, les Centres Sociaux de Gerland et d'autres associations.
Et Blablamix, on n'est pas une association.
Ah, bah, on va offrir à Blablamix aussi, bien sûr. Hein. Blablamix.
Ouais, Florian est content.
Et donc, des associations qui travaillent avec des publics, soit des réfugiés, soit des publics sociaux en général. Et les autres 50% des places, ça va être pour les partenaires que j'ai déjà cités et autres.
Okay.
Et aussi pour les donateurs. Donc pour les personnes qui veulent venir soutenir le projet et voir les spectacles dans les salles et participer des échanges, vous pouvez aller dans la plateforme KissKissBankBank ou nous contacter directement,
la casita.
Et nous serons très 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 reconnaissants de votre aide.
Et donc, la date, l'endroit et le lieu pour voir ce spectacle, pour voir Sam, voir du flamenco, ça, moi, c'est ça qui m'a, que je veux voir.
Donc, c'est le 9 juin au Palais de la Mutualité.
À 20h30.
À 20h30. Et le 16 juin au Croiseur, Lyon 7e, à 19h30.
Et après, on verra plus tard. Sam.
Et qui fait le buffet?
Ah, alors Sam, non seulement il vient danser, comme il est très généreux, il va faire le buffet pour les artistes. Parce qu'avant de monter sur scène, on va répéter, on va rester, on va manger. Uh-huh. Et c'est Sam Cuisine qui va nous le faire.
Alors, malgré le ramadan, est-ce qu'on peut dévoiler quelques plats? Et est-ce que tu peux le dire en arabe afin que Rita traduise? Parce que je t'ai jamais entendu parler arabe, Sam, et j'aimerais bien.
D'accord.
Qu'est-ce que tu vas faire à manger
aujourd'hui?
Non. Pour nous.
Pour le
projet. Devant
le
micro.
Je ne sais pas.
En arabe.
La hâte l'âne m'a marqué.
Je n'ai pas encore décidé.
On a déjà discuté des points, mais on n'a pas encore décidé.
On a déjà discuté des points, mais on n'a pas encore décidé ce qu'on va faire exactement.
في اجتماع راح يصير يعني وراح نقرر بعده.
On va se réunir pour décider.
بس على الأغلب راح يكون حفل كنبي وصغير وتختينات وهيك يعني.
Les spécialités syriennes.
Non, c'est mélange. Ouais.
Retrouvez Sam Vendedor de Sueños au Palais de la Mutualité le 9 juin à 20h30. Et Florian, toi, oui. Tu étais à un concert récemment.
Oui, effectivement, oui.
Pourquoi tu n'as pas mangé de pizza avec nous l'autre jour?
Oh là là, on va pas aborder les sujets sensibles.
C'était très bon.
Et très bien. Mais...
Et donc oui, moi je vous emmenais en voyage un peu plus à l'est que l'Espagne ou le Brésil, ou un peu plus à l'ouest, hein, la Terre est ronde, ça dépend du point de vue. Et donc je vais vous emmener entre l'Orient et l'Occident, là où les cultures et les religions se mélangent. Et là où les langages aussi se mélangent. Mais pourtant, il y a un... il y a un patrimoine commun très, très riche là-bas, qui est hérité des plus anciennes civilisations. Vous savez, il y a les temples, il y a le temple de Baalbek, par exemple, il y a Byblos et son port antique, il y a la plaine de la Beka, enfin, je veux bien sûr parler du Liban. Et qui mieux que Férouz, la plus célèbre, la plus illustre des chanteuses, peut nous faire ressentir l'atmosphère toute particulière qui y a dans ce pays.
من روح لزمان في كنانا
c'était Feruz Rajaiya Hawa. C'est pas évident à prononcer.
Est-ce qu'il a bien prononcé, Rita?
Est-ce que tu peux répéter?
Non, il peut pas.
Bla bla bla, invité.
Dans Blabla Invité, des images, des trajectoires, des objets, des photos, un homme, circulez, il y a tout à voir. C'est vous, Christophe Bessard. Bonjour, bonsoir.
Bonjour, chanté.
Qui êtes-vous, Christophe Bessard?
Alors, je suis photographe, je travaille sur des projets d'action culturelle avec l'association Kimel, donc qui est implantée à Lyon.
Q-I-M-E-L.
Voilà,
sans U.
Voilà. Et l'idée, d'ailleurs, le mot Kimel, c'est un jeu, puisque l'association, l'objectif, c'est de travailler sur tout ce qui va favoriser les échanges interculturels, les temps de rencontre, les jonctions entre les personnes. Eh bien, Kimel, c'est une association qui mêle.
Ah, d'accord, pas mal. Voilà. Mais vous-même, vous vous cachez derrière une association et des jolis mots. Mais par exemple, qui vous a mêlé, vous, quand vous aviez 10 ans? Qui y avait-il dans votre,
alors, moi,
dans votre chambre?
J'ai toujours été très intéressé par l'image, par l'écriture aussi. Donc, à travers plusieurs formations, donc essentiellement en photographie, mais aussi en sociologie, en action culturelle. J'ai travaillé sur tout ce qui pouvait contribuer aux échanges. J'aime du coup tout ce qui va contribuer à créer l'échange, et c'est à travers des rencontres aussi, à travers des voyages que ça m'a donné envie de travailler plus sous cet angle-là. Donc j'ai aussi un travail de photo.
Est-ce que l'appareil photo est pour vous un moyen de rentrer en contact avec des jolies femmes?
Non.
Non. Est-ce que vous avez une image, une image préférée ou une image déclencheuse? Y a-t-il une vision qui a été à l'origine de votre passion pour la photo?
Question difficile. Oui. Je pense pas à une image. C'est vrai que la photographie, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de donner un cadre à un moment. Mais en fait, quand on regarde une image, ce qui est tout aussi important que ce qu'il y a dans le cadre de l'image, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre chacun dans tout ce qu'on va pouvoir construire autour de l'image. Donc finalement, ce qui est autour de l'image est aussi important, c'est-à-dire ce qu'on voit pas dans le cadre de l'image est aussi important que ce qu'il y a dans le cadre de l'image. Et là, chacun va pouvoir raconter une histoire, chercher des choses.
Chacun, les spectateurs, vous voulez dire, les visiteurs?
Chaque personne qui va regarder l'image. Et du coup, l'image est vraiment, pour moi, à prendre comme une histoire. C'est ce que je trouve intéressant dans la photographie.
C'est le manque.
C'est qu'il y a un espace et qu'il y a un espace à construire, un petit peu comme dans un livre, on lit, chacun va se créer, va donner une intonation de voix à ses personnages. Dans l'image, c'est pareil, chacun va créer un monde autour. Et donc, la force de l'image qui est dans le cadre, ce sera de pouvoir amener une histoire propice ou.
Le manque, c'est la vie, comme disait l'autre. Et justement, cette histoire de connexion et de trajectoire mêlée, de manque, eh bien, tout est réuni à la médiathèque de Vez dans une exposition. Est-ce que vous pouvez nous décrire? Qu'est-ce qu'on voit?
Alors, cette exposition, elle est née de temps de rencontre avec des personnes en demande d'asile. Et ensuite, pour certaines qui ont eu le statut de réfugié, l'idée pour nous, c'était de travailler à travers donc des images d'objets. Donc de travailler sur des présentations, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir, c'est des portraits, sauf que c'est pas un portrait, c'est pas des visages, c'est un ensemble d'objets, des objets mis en scène, alors sur fond blanc. Donc l'idée, c'était d'avoir l'objet qui puisse ressortir un petit peu comme, qui puisse vraiment donner son histoire. Et chaque objet est choisi en fonction des parcours que les personnes veulent présenter d'elles-mêmes, donc essentiellement sur des projections, des projets, des perspectives. Et on a ces objets, et en même temps, donc parallèlement, on a des phrases qui sont tirées de temps de rencontre, qui, donc c'est des extraits de texte qu'on a choisis. Alors l'idée est plutôt d'être sur un rythme qui peut être parfois poétique, plutôt que sur un rythme documentaire, c'est-à-dire qu'on va pas dans l'intimité, on est plutôt sur des projets. Finalement, c'est pas tellement qui raconte. Et l'objectif étant que un spectateur, un visiteur de l'exposition qui va venir, à la limite, ne saura pas nécessairement c'est des parcours, des projections de personnes réfugiées en France.
Mm-hmm. Donc on va faire un petit test, Christophe Bessard. Florian, quel est l'objet qui te représente le mieux ?
L'objet qui me représente le mieux ?
Je te laisse réfléchir. Rita ?
Qui m'en représente ?
Mm-hmm.
Moi aussi, en fait, j'ai besoin de réfléchir. Mais...
Dan, quel est l'objet que tu prendrais ou que tu as pris quand tu as tout quitté ?
Un livre. Il s'appelle « Qui amenait le Durantina ?» Et il écrit Ismaël Kadare. C'est un livre qui parlait avec une légende. Et il est magnifique.
Rita, tu as trouvé ?
Oui, je pense que si je vais partir, je pense que je vais amener mes albums des photos. Mm-hmm. J'ai beaucoup de photos quand j'étais petite avec ma famille, mes amis, et je ne peux pas partir sans nom.
Christophe Bessard, un album de photos.
Très bien.
Ça vous parle. Léna.
Alors moi, je pense que je prendrais mon carnet, agenda, journal intime, où j'écris tout, qui est là d'ailleurs.
Ah, un journal intime.
Enfin, c'est pas vraiment un journal intime, mais...
Est-ce que tu peux nous lire une page?
Je ne crois pas. Et du coup, j'écris tout dedans, et je pense que ça me manquerait si je ne l'avais plus.
Florian?
Et moi, ce serait un berimba, ouais. Ouais, cet arc musical brésilien, là, ça fait écho à la capoeira, au voyage, à la musique, à plein de choses.
Et à la fois, tu peux chasser alors ? C'est un arc ?
Ah non, c'est un arc musical, c'est juste pour jouer de la musique, du coup.
Et Christophe, alors, qu'est-ce que vous emporteriez, vous ?
Un stylo. Voilà, parce que, alors, dans l'idée du projet, c'est plus des objets qui nous représentent ou qui représentent des projets que des objets qu'on emporterait, en fait. Mmh. Puisque là, il s'avère que à travers beaucoup de rencontres, les gens n'ont pas emporté grand-chose. Et l'idée, c'est d'avoir un objet qui puisse en même temps nous représenter, nous, et qui permette une distanciation, c'est-à-dire qui puisse créer une jonction avec quelqu'un qui le voit, qui fait, tiens, un instrument de musique, ah ouais, moi j'aime bien la musique. Et donc qu'il soit un objet en même temps personnel, qui montre une personnalité, et en même temps qu'il soit pas totalement individuel, pour pouvoir créer un lien avec quelqu'un qui va se retrouver dedans, puisque l'objectif est justement de créer une connivence
entre le monde, l'intime, et le monde.
Oui,
alors, des trajectoires, des circulations.
Voilà, plutôt l'idée pour nous, en fait, dans ce projet, est de montrer que chaque personne qui part d'un pays pour des raisons X ou Y, donc là, en fait, nous, c'est des migrants qui sont réfugiés, donc pour des raisons quand même difficiles, mais que chaque personne est avant tout une personne avec des savoirs, des compétences, des choses à partager. Et donc l'objectif du projet, c'est de rappeler ça et de mettre en avant ça, justement, puisque les personnes veulent s'inscrire dans la vie d'une société dans laquelle elles arrivent à travers leurs compétences, plus qu'à travers, évidemment, un statut. Mais comme tout le monde, on n'a pas envie nécessairement d'être présenté sous la forme d'un statut. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant une compétence à travers un objet, et pour pouvoir créer un lien entre la personne qui voit et la personne qui parle d'elle, on trouvait intéressant de trouver un objet qui soit pas totalement personnel, parce que justement, la personne, dans le projet, on a une guitare, un parapluie, un cahier avec un crayon, on a un set de cuisine, puisqu'il y a une personne qui fait de la cuisine. Et donc là, les personnes qui regardent peuvent se dire, peuvent se retrouver dans les objets qu'elles voient.
On va aller voir, aller à la médiathèque jusqu'au 8 juin, la médiathèque de Vèze, pour voir cette exposition qui s'appelle Images et trajectoires.
Voilà.
Grâce à l'association Kimmel et Christophe Bessard. Un dernier mot, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement ?
L'échange. Déjà aussi de rappeler que... Parce que l'idée aussi centrale, c'est de rappeler qu'une personne qui circule est une personne qui emmène avec elle des savoirs, des cultures. Donc c'est quelque chose qui va contribuer à la construction de nos sociétés. Ça, c'est important quand même de le rappeler aujourd'hui, qu'on a tout à gagner justement à la circulation des savoirs et des cultures. Alors, et l'exposition, donc, c'est un temps, et après, elle va se poursuivre sur l'année. Donc là, si je peux me permettre de faire une petite invitation. Voilà, donc là, c'était une première phase essentiellement sur du travail effectué, donc des ateliers de création avec des réfugiés, donc que nous avons menés avec aussi un vidéaste, un photographe, donc moi,
Et le CADA.
Un travail d'écriture, un partenariat avec le CADA.
Centre d'accueil.
Voilà, de Saint-Genis-Laval. Et du coup, ça c'est ce qui est visible à la médiathèque, c'est essentiellement le travail effectué en 2016. Et là, on continue des temps d'ateliers, des temps de rencontres. Donc là, j'invite des personnes qui souhaiteraient participer, bah, aller sur le site de l'association, donc kimel.com, et il y a le téléphone, il y a le mail.
Et la popote. Et si vous êtes curieux, eh bien allez voir aussi les photos, je vous le conseille, de Christophe Bessard. Il a un blog. Et c'est magnifique. Florian, toujours aussi musical.
Oui, connaissez-vous Marcel Khalife? C'est un chanteur, compositeur, artiste libanais qui a été nommé artiste pour la paix par l'UNESCO. Et c'est quelqu'un de très engagé en faveur du patrimoine culturel musical arabe en général. Et notamment, il s'inspire des poèmes du poète palestinien Mahmoud Darwish, dont on a déjà parlé dans cette émission. Et alors la chanson que j'ai choisie, voilà, de quoi il parle dans cette chanson. Il dit que c'est qui marche fier avec la tête haute, même avec son cœur qui saigne. Il sera toujours engagé pour la paix, même avec tous les malheurs qui lui arrivaient dans sa vie. Et voilà, c'est le thème de cette chanson.
Et Rita.
En fait, il y a une chanson de Marcel Khalife, elle s'appelle Rita. Et moi, je voulais dire que j'aime beaucoup cette chanson.
Mais ce n'est pas celle-ci.
On la choisira la prochaine.
Aujourd'hui, c'est la paix.
وأنا أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع
C'est beau, le Liban, la musique et Dan. Dan, c'est un homme qui a toujours une casquette et des lunettes et rarement rasé, mais toujours souriant malgré les difficultés. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Véronique, merci.
Et nous avons en face de toi une Anglaise.
Ah,
oui. Une Anglaise, française, mais surtout un pays qui n'a pas de frontières, le théâtre. Bonjour Marielle Kenney.
Bonjour. Bonjour.
Marielle, je vous présente Dan. Dan.
Bienvenue Marielle.
Merci beaucoup.
La maison et le monde viennent de la vie réelle ou de livres?
Donc alors, ça c'est le titre du spectacle que vous allez monter.
Oui, tout à fait. Donc on monte un spectacle qui s'appelle La maison et le monde, qui est une adaptation d'un roman de Rabindranath Tagore, qui était d'abord publié sous forme de feuilleton en 1915-1916, et qui se penche, c'est vraiment un roman autobiographique, donc où il lance un regard en arrière sur les événements à partir de 1905. Donc Tagore.
Oui,
Tagore. Tagore, c'est le prix Nobel de la littérature de... Alors, dites-moi, 1915 ? Non, 1913. Et c'est un très, très grand auteur. Les Bengalis le connaissent très bien. Normalement, le monde entier le connaît très bien. Il était ami d'Einstein. Il a été en France, c'est André Gide qui a traduit ses poèmes. Et voilà.
Donc quelqu'un de très connu.
Un roman écrit en 1915 correspondant-il à la vie en 2017?
Alors, je ne sais pas s'il correspond, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'échos entre ce roman et des questions que je pouvais me poser, et les comédiens auxquels j'ai fait lire ce texte étaient d'accord avec moi. Et c'est aussi ça qui nous a donné envie de l'adapter.
Et quoi alors? Quels sont les échos en question?
Oh là là,
parlez bien.
Eh bien, c'est en 1905, il y a la montée du mouvement nationaliste indien, le Swadeshi. Et au début, c'est un mouvement qui s'insurge contre la partition du Bengale en 1905 et qui prône peu à peu une autonomie de l'Inde. Et bon, tout va bien jusque-là. Jusqu'à très vite, le mouvement se radicalise et une des choses, la partition du Bengale, c'était séparer le Bengale entre les hindous et les musulmans, en gros. Et ça, c'était inacceptable parce que tout à coup, ça mettait le feu aux poudres. Et puis le Swadeshi, qui a commencé en disant « mais non, on est un seul même pays », peu à peu se sont dit « mais peut-être que les musulmans, finalement, tadadadada ».
Peut-être que les musulmans, quoi ?
Non, peut-être que, je ne sais pas si la bande-son fonctionne ou pas. Non, bon, tant pis. Mais parce que vous entendrez donc dans le spectacle que l'idée, c'était d'avoir une suprématie hindoue au fur et à mesure. Et de dire que, bon, bah, finalement, les musulmans ne sont peut-être pas nos frères et que peut-être que dans cette nouvelle Inde, ce serait vraiment une Inde hindoue. Et voilà.
Donc là, nous sommes en
1905, 1907, et en 1915, ça devient quelque chose qu'il faut comprendre, et du coup, Tagore écrit ce roman, et c'est un roman qui a été très mal reçu, et en Inde, pour des raisons aussi morales, politiques, parce que aussi, il y a beaucoup de choses dans ce roman, c'est très complexe, il y a aussi un des personnages qui essaye d'être moderne, et qui propose à sa femme de rompre avec la tradition. Mmh. Pour donc faire un pas de la maison vers le monde, c'est-à-dire de sortir du zénana qui est comme un gynécée, et c'est quelque chose qui n'arrive pas dans l'aristocratie indienne bengali, et donc il y a ça, et moralement c'est déjà quelque chose qui a beaucoup choqué, et en plus elle a le mauvais goût de tomber amoureuse de l'ami de son mari, donc ça va encore moins.
Mais c'est très moderne.
Oui, tout à fait. Mais c'est un roman qui est moderne aussi dans l'écriture. Moi, je ne lis pas le bengali, mais si j'ai bien compris, même c'est comme si tout à coup les abréviations étaient acceptées dans ce roman, et c'est la première fois que c'est fait. Et c'est aussi un roman qui est écrit.
C'est-à-dire les abréviations.
Alors moi, je l'ai compris vis-à-vis de l'anglais. C'est comme au lieu de dire I did not, on écrit I didn't.
Ok.
Et je sais plus ce que je voulais dire.
Eh bien, vous alliez raconter autre chose.
Ah oui,
de
les trois voix. Donc c'est un roman qui, là aussi, c'est le deuxième roman indien qui est écrit sous forme d'autobiographie, enfin sous forme de journaux intimes, mais c'est trois journaux intimes des trois personnages principaux. Et donc ça, c'est une des choses qu'on voulait montrer dans la pièce. Et donc on le fait via des voix off, via un montage. Et c'est dans ces voix off là que peut-être on arrive à, parce que c'est des pensées intimes d'hommes qui se posent des questions, qui essayent de donner des réponses, qui parfois changent d'avis. Et c'est peut-être ça qui nous parle le plus.
Quels sont les rôles principaux dans ce spectacle?
Alors, il y a cinq personnes sur scène. Il y a un sitariste, Nicolas Delegue, qui est un grand musicien. Venez. Venez,
rien que pour lui déjà et pour vous déjà.
Et il y a alors une actrice qui est aussi danseuse de Bharatanatyam, qui est une danse classique indienne, et qui s'appelle Fanny Viard, et trois comédiens, Benjamin Butel, Laurie Raveau et Chandiva Banerjee.
Comme sera le décor de la scène?
Alors, il y aura... Est-ce que je vous dévoile tout, peut-être?
Pas tout, mais peut-être une ambiance. Quel est votre univers, Marielle?
Il y aura... Déjà, il y a un scénographe qui est mathématicien. Et c'était très important pour nous parce qu'en fait, il réinvente les objets via la géométrie. Donc, par exemple, la première chose qu'il m'a apportée, c'était un éventail indien. Mais en fait, il n'est pas du tout indien. C'est lui qui a refait des calculs pour que ça marche, mais selon sa logique. Et pour moi, c'est très important comme façon de faire. Et donc, il y aura des objets faits par lui. Et alors, le Swadeshi, une des choses que j'ai oublié de dire, oui, c'est que c'est des objets fabriqués au Bengale. Et ça, c'était une des grandes choses, arrêter toutes les exportations britanniques, mm-hmm, et fabriquer les produits eux-mêmes. Sauf que, puisque les Britanniques avaient la main mise sur les bons champs d'indigo, de coton, etc., les produits étaient de moins bonne qualité. Donc on s'est demandé, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des objets qui vacillent un peu? Et on s'est dit, peut-être pas. Donc finalement, on a fait, vous verrez, mais des objets en bois de cagette ou des choses comme ça, mais qui sont quand même assez bien, je trouve. Et sinon, la grande chose dans la scénographie, c'est une grande corde avec des grelots qui est comme les bracelets de cheville des danseuses. Voilà.
Oui. Quel est le message que vous voulez transmettre au public?
C'est compliqué. Je pense que, avant tout, c'est vraiment un texte que j'ai trouvé très beau et que je voulais partager. Il se trouve que j'ai eu l'occasion, que j'ai rencontré des gens qui ont rendu ce projet possible, donc la danseuse, le sitariste, mm-hmm, et les comédiens, où on s'est dit, nous aussi, on aimerait faire entendre ce texte. Et peut-être, moi j'ai l'impression qu'il y a une très grande sagesse dans ce roman, et je me dis, plutôt que d'en parler moi, essayons juste de faire un porte-voix à cette parole de Rabindranath Tagore, qui est vraiment un très grand homme, et on verra ce qu'on en retient.
Merci, Marielle.
Et vous, Marielle Kenley, vous êtes anglaise. Est-ce que vous payez la dette des Britanniques envers l'Inde, envers le Bengale? Est-ce qu'il y a quelque chose de...
Mais je sais pas. En fait, enfin, je suis anglaise. Je suis arrivée en France quand j'avais 3 ans, donc je ne me sens pas plus anglaise que ça. Mais
enfin, vous avez des racines, tout de même.
Oui, bien sûr. Mais non, je sais pas. Pour moi, c'est même pas une prise de position ou vouloir rétablir la justice. C'est vraiment le contexte politique et historique et géographique de cette pièce, en fait, fait une sorte de très grande précision dans l'analyse d'une situation politique compliquée. Et donc je me dis, c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Mmh. Il se trouve que c'est le Bengale, il se trouve qu'il y a des Anglais, mais bon, c'est plutôt la précision d'une situation extrêmement complexe qui donne lieu à une écriture que je trouve magnifique, mmh, qui m'a intéressée.
Et vous avez, ça va être accessible pour nous?
Oui, on a tout fait pour.
Plongeons dans le cerveau magnifique de Marielle Kenley et donnons-nous rendez-vous dans La Maison et le Monde à l'école
normale
supérieure
de Lyon. Alors c'est le 5, 6 et 7 juin à 20h30 et c'est donc dans le théâtre Cantor et les places sont de 4 à 7 euros et je vous invite chaleureusement à venir.
Eh bien nous y serons.
Léo, 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 Léo,
Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Boyae, 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 batata mama bondeko, boyae, tosangana,
tosangana,
Lisa Ponge,
Ponge,
Lisa Ponge,
Ponge,
mais Lisa Ponge quoi?
Ponge,
voilà. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre conte. Et vous savez, une hyène était tombée dans un puits et y est restée pendant 7 jours. Et il est à noter que un jour, le singe se promène dans la forêt et passe à côté de ce puits. Il remarque qu'il y a quelque chose au fond du puits. Il s'interroge, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Il se rapproche et voit qu'au fond du puits, il y avait une hyène. Et la hyène lui dit, singe, singe, c'est le moment. Parce que je suis en danger de mort, il faudrait que tu me sortes de ce puits. Le singe lui dit, d'accord, d'accord, je veux bien te sortir de ce puits, mais tu dois me garantir que lorsque tu vas sortir de ce puits, tu ne vas pas me manger. Et un accord est conclu entre ces deux. Vous savez ce que le singe va faire? Il va se retourner et faire rentrer sa queue dans le puits afin d'aider la hyène de sortir de ce puits. Et c'est ce qui va se faire. La hyène, une fois agrippée à la queue du singe, en sortant de ce puits, reste encore agrippé au singe. Et le singe dit, mais n'avons-nous pas conclu que tu devais me laisser en vie? L'hyène qui dit, tu sais que je suis resté 7 jours dans ce puits sans manger. Et si je te laissais, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est que je vais mourir. Je n'ai même plus la force d'aller chasser ailleurs. Donc maintenant tu me sers aussi de proie, tu me sers aussi de nourriture. Mes chers amis, prêtez bien l'oreille et écoutez ce qui va arriver. Il y avait le lièvre qui passait dans les parages aussi, qui était attentif à ce débat, à ce litige. Et le lièvre vient et demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et on lui fait un compte rendu. Le lièvre, de son intelligence, remarque que il faudrait qu'il intervienne dans le litige. Et il fait semblant de ne pas comprendre. Vous savez ce qu'il fait? Le lièvre dit au singe, tout ce que vous me dites là, vous deux, vous êtes des menteurs. Moi, je n'ai jamais vu, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, un singe faire sortir du puits avec sa queue une hyène. C'est impossible. Moi, je veux que vous répétiez la scène et que vous me démontrez par A plus B plus C que vous êtes vraiment sorti du puits. Et voilà, les deux, le singe et la hyène, vont tomber dans le piège du lièvre. Et ils vont reprendre la scène. Vous savez ce qu'ils vont faire? La hyène tombe encore au fond du puits et le singe reste à la surface. Et c'est là où le lièvre lui dit, écoute, tu es sain et sauf, c'est le moment de te sauver. Et le lièvre a servi pour résoudre ce problème. Mes chers amis, c'est un petit conte mais riche d'enseignements. Retenez une chose, c'est que les animaux du conte sont des images masquées des humains et de leurs traits de caractère. Donc, dans ce conte, il y a une personne qui symbolise la sagesse et l'intelligence. Il y en a qui symbolisent la méchanceté et d'autres symbolisent la naïveté. Vous avez notre Facebook Ratabantu pour répondre à ce quiz. N'oubliez pas que le 1er juillet, Léo Ratabantu va faire un solo à la Méduse, où les paroles du conte seront transformées en gestes de danse contemporaine. Ça serait vraiment quelque chose à découvrir. Lisa Ponge!
Ponge!
Lisa Ponge!
Ponge!
Merci.
Merci Léo. Fa, 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 fa. Fashion. Lena, welcome.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a au menu dans tes cheveux?
Bah, pas grand chose parce qu'ils font moins de 2 cm, mais aujourd'hui je voulais parler des pins parce que c'est l'été et que tout le monde se met à en porter. Des pins, c'est-à-dire des petits bijoux en métal que les gens portent.
Ah, ça revient à la mode.
Oui, ça revient à la mode, bizarrement.
Tu as un rouge à lèvres accroché.
C'est ça. Peggy a cru que c'était un vrai rouge à lèvres d'ailleurs tout à l'heure, que je l'utilisais pour m'en mettre, mais non. Alors il y a plein de sortes de pins différentes, mais en tout cas, moi, ceux que je préfère, c'est ceux qui sont en métal. En fait, ils ont une histoire assez riche, les pins, parce qu'en fait, ils sont nés sous cette forme-là pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils étaient portés par les pilotes d'avions pendant la guerre. Et en fait, ils avaient le droit de porter un pins qui montrait le modèle d'avion qu'ils avaient été formés à conduire. Et c'est comme ça que c'est né. Après, ça a un petit peu disparu. Et c'est revenu dans les années fin 60 en tant qu'objet publicitaire. Donc il y avait plein de pins, Roland-Garros, Jeux Olympiques et tout. Des trucs un peu ignobles en forme de raquettes de tennis, là, un peu horrible. Et c'était surtout pour donc, faire la pub d'émissions de télé ou...
Puis c'est revenu à la mode dans les années 90 aussi.
Oui, voilà, c'est ça, c'est revenu à la mode dans les années 90 et en fait, à ce moment-là, il y a plein de gens qui se sont mis à les collectionner. C'est surtout des collections thématiques, genre des gens qui collectionnent que des pins avec des motifs sportifs ou que des pins avec, je sais pas, des animaux. Enfin, c'était des collections un peu comme ça. Et aujourd'hui, il y a de nouveau pas mal de collectionneurs et ça se vend assez cher. Et il y a une espèce de frénésie autour des pins Disney, en fait, en forme de personnages Disney et tout. Il y a carrément un code couleur... qui est lié à ces pins.
Carrément, quoi.
Ouais, ouais, il y a un code couleur et il y a carrément un truc que je trouve assez dingue, c'est que quand on va à Disney, il faut afficher sur la bretelle de son sac les pins qu'on veut vendre ou échanger. Et selon où on les place sur la bretelle, ça veut dire je vends, j'échange. Et en fait, on peut aborder n'importe quelle personne qui a des pins sur son sac parce que ça veut dire qu'il est prêt à faire affaire. Et, mais disons qu'aujourd'hui, les pins, c'est surtout ça. C'est moins, il y a moins de, c'est quand même assez vide de sens. C'est plus de la déco, des bijoux et tout.
Oui, ça a l'air assez vide de sens, oui. Mais c'est bien, ça fait c'est un contraste.
Bah, c'est un bijou en fait, et maintenant on peut en trouver à pas mal d'endroits différents, on peut en trouver soit dans les grandes enseignes type H&M, Zara, etc. qui commencent à en refaire, on peut aussi en trouver fait par des petits créateurs qui les font eux-mêmes en fait, qui font des dessins, qui les font faire, donc on peut trouver ça sur des sites comme Etsy, comme A Little Market, comme des boutiques en ligne en fait, et ça coûte entre 5 et 10 euros pour les moins chers, et après on peut aussi en trouver en friperie, et c'est là que j'en achète, et ça coûte 1 euro, et il y en a plein, et c'est super.
C'est la folie, quoi, les pins. En tout cas, merci beaucoup, Léna, pour se terminer en légèreté, et ça fait du bien. Léo, Peggy n'a pas dit un mot, mais sachez qu'elle était là et qu'elle est très importante dans l'équipe, ainsi que Marcelina, que vous avez vue sur l'univers violet qui roule jusqu'à vous. Merci à vous, auditeurs, auditrices. On se retrouve bientôt. Bye bye, merci Florian.